Info à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. L'ONU entend entreprendre prochainement l'identification des Maliens qui font obstruction à la paix dans leur pays en vue de leur imposer des sanctions. C'est ce qu'ont affirmé mercredi les États-Unis et la France. Mais la Russie a mis en garde contre toute précipitation, John Lindon.
Les retards dans l'application de l'accord de paix de 2015 nous conduisent à devoir aller plus loin, a résumé l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le Mali. Aucun progrès substantiel n'a été réalisé dans l'application de l'accord et nous souhaitons travailler avec nos partenaires pour identifier les responsables et prendre les mesures qui s'imposent, a abondé Amir Tachko, diplomate américain, en évoquant la perspective de sanctions. L'objectif est de viser dans un premier temps une série de responsables qui nuisent à l'application de l'accord sur le terrain, notamment par leur collusion avec des groupes terroristes ou des activités de trafic, a indiqué le diplomate français. Mais pour l'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitry Polianski, l'utilisation directe des sanctions doit être une mesure de dernier recours. Il a de ce fait mis en garde contre toute action à la hâte, ce qui serait contre-productif. Présent au Conseil de sécurité hier, le ministre malien des Affaires étrangères, Tiemane Hubert Koulibaly, a défendu l'action de son gouvernement, assurant que les petits pas accomplis pour rétablir la confiance entre les acteurs étaient des pas sûrs.
Au Sénégal, le procès inédit d'une trentaine de djihadistes présumés se poursuit à Dakar. Les prévenus continuent de défiler à la barre et une femme a reconnu avoir été au centre d'importants mouvements de fonds provenant du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Les détails avec Abdourahman Dia.
Koumbagnan, 34 ans, épouse d'un Sénégalais accusé d'avoir combattu aux côtés de Boko Haram, a révélé à la barre qu'elle recevait de l'argent des djihadistes. « Avant de partir pour le Nigeria, Mortar Diohane m'avait confié de l'argent », a-t-elle affirmé. Elle a assuré avoir remis sur instruction de son époux de l'argent à des proches de ce dernier, confirmant les dires d'un autre prévenu, Ibrahim Diallo, qui a indiqué mardi devant la barre avoir reçu d'elle 22 000 euros à son retour du Nigeria. Selon le parquet, lors d'une perquisition à son domicile près de Dakar, 14 500 euros ont été saisis dans sa chambre en plus de documents relatifs au djihad. Mère de trois enfants, Koumbagnan est une des deux épouses de Mortar Diohane, un des principaux prévenus de ce procès inédit au Sénégal. Au total, 29 personnes, dont un imam et trois femmes, sont jugées pour actes de terrorisme par association de malfaiteurs, par menaces ayant pour but de troubler l'ordre public, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. Le Sénégal, qui compte plus de 90% de musulmans, a été jusqu'à présent épargné par les attentats djihadistes qui ont frappé d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, mais il a renforcé la sécurité devant les hôtels et de nombreux bâtiments publics après les attentats dans la région.
Le Niger a un nouveau ministre des Affaires étrangères, Ala Ankouraou. Il a remplacé à ce poste mercredi Ibrahim Yacouba qui a présenté sa démission. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La diplomatie nigérienne a désormais comme chef Kala Ankorao, un cacique du parti au pouvoir, ministre déjà dans le premier gouvernement formé par le président Issoufou Mahamadou à son accession au pouvoir en 2011. Il remplace Ibrahim Yacouba qui annonçait mercredi après-midi à travers un tweet avoir rédigé et remis une lettre de démission au premier ministre. La raison est, selon le président du parti MPN Kinshasa, que le chef du gouvernement l'a informé du souhait exprimé par le président Issoufou de ne pas le garder au sein de l'équipe gouvernementale compte tenu de certaines informations sans grande précision. Au-delà de sa démission, l'ancien chef de la diplomatie nigérienne a également annoncé le retrait de sa formation politique qui compte 4 députés au Parlement de la mouvance présidentielle. Du coup, la ministre de la Communication, membre de cette formation politique, a également été remplacée. Depuis quelques mois, les relations sont froides entre celui qui est arrivé 4e aux dernières élections présidentielles et le président de la République. Ibrahim Yacouba, en tant que ministre des Affaires étrangères, se faisait en effet rare dans les déplacements officiels. Sa formation politique est aussi farouchement opposée à la Commission électorale nationale indépendante mise en place à la fin de l'année 2017. Elle la juge notamment pas assez représentative dans sa composition et met en doute la neutralité des représentants de l'administration au sein de cette commission. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, en RDC, l'opposition dit non à la machine à voter et exige l'audit du fichier électoral. Ses principaux partis et regroupements politiques l'ont fait savoir mercredi à Kinshasa, où nous retrouvons pour les détails Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire sur place.
Dans une déclaration commune lue au siège du Mouvement de Libération du Congo à Kinshasa, l'UDPS, le MLC, l'UNC, ensemble de Moïse Katumbi et Congo Nabisso de Freddy Matungulu contestent les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante le vendredi dernier sur le nettoyage du fichier électoral et exigent en même temps des mesures correctives pour garantir, selon eux, la crédibilité des résultats des prochaines élections. Félix Tshisekedi de l'UDPS, Eve Bazaïba du MLC, Jean-Baudouin Maillot de l'UNC et Pierre L'ensemble de Moïse Katumbi expriment également leur rejet de la machine à voter au prochain scrutin pour notamment son caractère inconstitutionnel. Faisant allusion à la dernière déclaration de la commission électorale sud-coréenne, ils évoquent, je cite, le risque d'une fraude à grande échelle en cas d'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI. Fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Tchad, il est difficile d'avoir accès aux réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp ou Twitter. Les internautes avertis téléchargent une autre application sur leur téléphone pour pouvoir contourner cette censure, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kodmajinga.
La privation des réseaux sociaux imposés aux Tchadiens sans les en informer au préalable ressemble à une entrave à la liberté d'opinion et d'expression. Car aujourd'hui, nombre d'internautes tchadiens ont du mal à correspondre avec l'extérieur via Internet à cause de cette restriction du réseau. Quelques internautes de N'Djamena se lamentent.
On a besoin de se connecter, on a besoin d'avoir des informations et subitement, on nous surprend à une interruption sans explication.
J'arrive à recevoir mes mails, j'arrive à consulter certains sites, mais pour Facebook et WhatsApp, je suis obligé de passer par des applications VPN et ça prend beaucoup d'unités.
Une situation qui impacte aussi négativement le travail des journalistes, surtout les responsables des journaux en ligne. Jimmy Huché est le directeur des publications de Aluda Info.
Nous avons aussi l'habitude de partager nos informations sur Facebook, sur Twitter. Malheureusement, nos lecteurs ne parviennent pas à y accéder. C'est là qu'on suit déjà un manque à gagner pour nous. Parce qu'à la fin de chaque mois, Google a l'habitude de nous rémunérer.
Pour le directeur des publication du site web du journal Le Pays, le nombre des visiteurs de son site a baissé. Majasra Nako demande aux opérateurs de téléphonie mobile de ne pas inscrire leur nom sur la page sombre de l'histoire.
Au niveau interne, nous sommes autour de 100 000 vues par semaine, mais là, sur les deux dernières semaines, ça a dégringolé. Et c'est une situation qui est dommageable parce que c'est le trafic sur le site internet qui incite les annonceurs, par exemple, à venir faire de la publicité chez nous. Entre respecter sa clientèle et respecter un État, il faut bien qu'ils sachent se mettre du bon côté de l'histoire, sinon un jour on leur rappellera que RTL Outigo a été complice d'une dictature.
Le secrétaire chargé des droits et intérêts économiques de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, Yaya Sidim, parle d'un manque de respect et de considération envers les consommateurs.
En principe, quelles que soient les causes qui ont conduit à cette mesure d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux, on doit au moins tenir informés les consommateurs. Aujourd'hui, les TIC font partie intégrante de notre vie de tous les jours. On ne peut pas nous priver de ça.
Ni le gouvernement, ni les opérateurs de téléphonie mobile, moins encore l'autorité de régulation, ne souhaitent se prononcer sur cette question. Mais tout porte à croire que la restriction des réseaux sociaux serait demandée par le président Déby en personne pour des raisons de sécurité. Car, selon des sources concordantes, un proche du régime au pouvoir s'en est pris violemment à ceux qui contestent la gouvernance du système dans une vidéo postée sur WhatsApp. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Conflit en Syrie pour terminer, l'armée syrienne évacue des aéroports et des bases militaires ainsi que des bâtiments stratégiques à Damas. Des mesures prises pour se protéger contre une éventuelle attaque de missiles des États-Unis. Marie Benson.
Le président américain Donald Trump a menacé de représailles le régime syrien de Bachar al-Assad suite à une attaque chimique présumée le 7 avril 2018 près de Damas. Selon Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les bâtiments de l'armée et son QG ont été évacués au cours des deux derniers jours. Certains avions ont été transférés à la base aérienne russe Khmeimim. Une source pro-régime en Syrie assure toutefois que les Américains devraient prévenir les Russes avant toute frappe.
Conflit en Syrie toujours, le groupe rebelle Jaïch al-Islam qui contrôlait la ville de Douma dans la Ghouta orientale près de Damas a indiqué ce jeudi n'avoir eu d'autre choix que d'accepter de l'évacuer après l'attaque chimique présumée imputée au régime du président Bachar al-Assad. Merci de votre attention.